Les nouveaux corsaires, Philippe Vasset, Pierre Gatineau. Prise de son, Nasser Moussaoui. Réalisation, Rafik Zénine. Au XVIIe siècle, les corsaires couraient les mers pour leur compte et pillaient des navires pour leur roi. Quatre siècles plus tard, leurs lointains héritiers sont partout. Sur les champs de bataille où ils sont aux avant-postes des combats, dans les airs où ils assurent la surveillance des côtes, dans l'espace où ils espionnent et même dans le cyberespace où ils piratent. La concession des fonctions les plus régaliennes de l'État à des opérateurs privés sera la tendance lourde du siècle qui vient et, sans attendre, notre série Les Nouveaux Corsaires vous propose d'aller à la rencontre de tous ces entrepreneurs en souveraineté auxquels les États sous-traitent d'ores et déjà leurs missions les plus sensibles.
Aujourd'hui, cybercorsaire contre flibustier du web.
Comme leurs ancêtres marins, les pirates informatiques sont otages de la fiction. Depuis le film War Games dans les années 80, jusqu'à Hacker de Michael Mann, en passant par Matrix et les séries Mr. Robot ou Homeland, les hackers saturent nos écrans, à ce point qu'il est devenu difficile de les imaginer autrement que jeunes, encapuchonnés de noir, autistes et rebelles. Mais il existe un autre type de pirate, moins romantique, mais bien plus réel.
Ces pirates-là ne sont pas des surdoués géniaux et incompris, travaillant la nuit dans une chambre en désordre. Ce sont des employés de bureau qui, tous les jours de la semaine, de 9h à 17h, cambriolent des boîtes mail et pénètrent des réseaux sécurisés pour le compte de clients privés et étatiques.
Ces ateliers de l'effraction informatique sont presque tous en Inde, un pays qui dispose sur le marché du piratage de multiples avantages comparatifs. La main-d'œuvre y est peu chère, parfaitement anglophone, et les autorités compréhensives quand elles ne sont pas complices.
Cet Eldorado indien du piratage, nous l'avons découvert un peu par hasard en 2017 en travaillant sur un livre consacré aux hackers d'État. Nous nous intéressions notamment à la guerre que se livrait à travers toute l'Europe le richissime gouvernement du Kazakhstan et un milliardaire qui avait eu l'impudence de se rêver président, Mukhtar Ablyazov. Les deux belligérants laissaient derrière eux tout un sillage de boîtes mails éventrées et de téléphones piratés, impliquant, dans leur guerre à coups de millions, une galaxie de consultants prestigieux qui, les uns après les autres, voyaient le contenu de leur messagerie siphonnée puis publiée sur Internet. L'une des victimes collatérales de ce conflit fut l'ancien directeur du renseignement intérieur français, Bernard Squarcini, reconverti en consultant.
Pour comprendre les ressorts de ce cyber-western kazakh, nous nous sommes alors mis en quête des mystérieux opérateurs qui, pour le compte des deux camps, pillaient les messageries et se jouaient des protocoles de sécurité informatique. Entreprises éminemment fastidieuses, les grandes batailles politico-financières sont un épuisant théâtre d'ombre où derrière les avocats et les communicants se cachent des stratèges qui, eux-mêmes, cachent des espions privés, etc. Dévider cet écheveau nous a menés de Londres à Zurich en passant par Tel Aviv. Mais notre quête est demeurée infructueuse.
Au bout de plusieurs mois d'efforts, nous n'avions qu'un prénom, Rajat. Sans savoir si le personnage qui répondait à ce patronyme était réel ou fantasmé, si c'était un hacker solitaire ou bien un chef de bande, un chef d'entreprise ou un criminel endurci. Seule certitude, il était indien. C'était mince.
Ce personnage mystère est rapidement devenu une obsession et nous avons multiplié les stratagèmes pour l'identifier. Un jour, au cours d'un déjeuner avec un enquêteur privé de notre connaissance, nous avons lâché son nom un peu par hasard. L'effet fut immédiat. Notre interlocuteur s'est figé, nous a jeté un regard de haine mêlé de panique. Trop agité pour continuer la discussion et persuadé que nous voulions le piéger, il s'est levé et a tourné les talons. Interrogé, plusieurs autres acteurs du petit village mondial de l'intrigue que nous chroniquons dans notre lettre d'information Intelligence Online ont réagi avec le même effroi. Nous étions enfin sur une piste.
Celle-ci nous a menés en Norvège, où un cabinet informatique avait analysé les opérations de notre hacker mystère pour le compte de l'opérateur de télécom national Telenor. Engagé dans un violent bras de fer avec un conglomérat russe, Telenor avait vu ses réseaux piratés à plusieurs reprises et avait mandaté des cyber-enquêteurs pour identifier l'origine des attaques. De serveur en serveur, de proxy en proxy, ceux-ci étaient remontés jusqu'au bureau d'une petite société indienne baptisée Appin Technology, dirigée par un certain Rajat Kare. Nous tenions notre homme.
Combinés aux informations glanées durant nos périples, les éléments recueillis par les enquêteurs informatiques norvégiens dessinaient une véritable nébuleuse du piratage à la demande. En quelques années, le cabinet de Rajat Kare, Appin, était devenu un véritable prestataire mondial de services de hacking, pénétrant boîtes mail, bases de données et réseaux sécurisés pour le compte d'une vaste clientèle. La société opérait sans distinction pour des cabinets d'avocats, des multinationales et même des États. On retrouve sa trace dans les bras de fer géopolitiques qui ont secoué l'Asie, mais également dans toutes les grandes batailles capitalistiques de ces dernières années.
Les équipes d'Appin ont même réussi l'exploit d'infiltrer l'une des plus grandes bourses du monde, le Chicago Mercantile Exchange. Se faisant passer pour des salariés de la place financière, ils ont sollicité, par mail, des informations confidentielles auprès des sociétés cotées, qu'ils ont ensuite revendues à une ribambelle de traders avides de délits d'initiés.
Mais tous les clients de Rajat Kare n'étaient pas des financiers. L'entrepreneur pirate indien a également opéré pour les services de sécurité de son pays, en particulier pour le Research and Analysis Wing, le puissant service de renseignement extérieur indien. Pour le compte des espions de New Delhi, les hackers d'Appin ont ciblé des administrations chinoises et pakistanaises, les deux ennemis de l'Inde dans la région. La société a même œuvré pour la sécurité intérieure indienne, piratant les réseaux d'organisations politiques jugées subversives, comme le mouvement du Khalistan, un groupe indépendantiste sikh du Punjab, ou le mouvement du Nagaland, des sécessionnistes Naga du nord-est de l'Inde.
Il faut dire qu'avec Rajat Kare, le renseignement de New Delhi était en terrain conquis. Descendant d'une famille de Bombay qui a fourni des générations d'officiers à l'Inde indépendante, il a épousé la fille d'un maître espion de New Delhi. Cet environnement familial a grandement facilité ses rapports avec l'appareil sécuritaire indien, dont la protection ne lui a jamais fait défaut. Les sécurocrates de New Delhi ont largement trouvé leur compte dans ce partenariat public-privé d'un genre un peu particulier.
Carte maîtresse du renseignement indien, Rajat Kare était également une fierté nationale. Non pour ses activités de pirate, gardées soigneusement secrètes, mais pour son activisme entrepreneurial. Véritable figure de la Silicon Valley locale, il a fondé plusieurs startups, dont une dédiée à la gestion de l'image en ligne de célébrités, et a même siégé au conseil d'administration d'un des plus grands conglomérats indiens actifs dans la défense, Punj Lloyd.
Mais si les protections étatiques assurent l'immunité, elles ne garantissent néanmoins pas la discrétion absolue. À force de travailler pour tout le monde, et parfois simultanément pour des camps adverses, Rajat Kare a fini par attirer l'attention. Mandaté par des entreprises victimes de ses exploits, plusieurs consultants en informatique ont remonté la chaîne des intrusions opérées par sa société Appin et ont graduellement diffusé leurs rapports dans la petite communauté des chercheurs en informatique. C'est ainsi que notre invité en a eu connaissance.
Je suis John Scott Relton, je suis chercheur Citizen Lab à l'école Monk à l'Université de Toronto. Je travaille depuis une bonne petite décennie sur la problématique des hackers, surtout des groupes de hackers qui visent la société civile, donc journalistes, ONG, etc.
Face aux cyber-flibustiers comme Rajat Kare, John Scott Railton pourrait être qualifié de cyber-corsaire. Le centre pour lequel il travaille traque les opérateurs clandestins du cyberespace, tout particulièrement ceux qui travaillent pour les États. Nous avons longtemps travaillé en parallèle, avant de nous rendre compte, presque par hasard, que nous travaillons sur le même dossier indien.
Pour John Scott Railton, l'histoire d'Apin est exemplaire car elle a inauguré une véritable industrie en Inde.
Apin est réputé dans notre monde pour avoir été vraiment le premier groupe de ce type à être mis dans le... à être publicisé, à être découvert. Donc, il y a 8 ans, un truc comme ça, 7 ans, une série de groupes de cybersécurité ont publié des reportages sur Apin montrant justement leur comportement. Et je pense que le cas d'Apin nous montre un petit peu l'écosystème indien. Parce que ce qui s'est passé depuis, c'est que les originaux de chez Apin sont allés un petit peu partout dans l'espace indien. Donc on les retrouve chez Bell Trucks, mais aussi dans pas mal d'autres compagnies. On peut imaginer que cela représente le début d'une industrie. Donc c'est le eBay ou le fondateur du Silicon Valley, justement des groupes de Corsair. Et je pense que ça représente tout un écosystème. Il y a des groupes qui font pénétration de boîtes mail, il y a des groupes qui font des actes des portables, il y a des gens qui vont direct dans le defense contracting, etc. Mais ça représente l'écosystème indien pour le moment.
Les hackers indiens ont longtemps été éclipsés par les exploits spectaculaires de leurs homologues russes ou israéliens. Les ateliers du piratage de New Delhi, à l'inverse, se cantonnent à des opérations peu techniques mais qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Un artisanat qui les a longtemps rendus invisibles, ce d'autant plus que, comme les cyberpirates de Moscou ou de Tel Aviv, ils bénéficient d'une discrète protection des autorités. Mais protection ne veut pas forcément dire soutien public. Lorsque les activités de Rajat Kare ont commencé à être connues et que les États victimes des exploits du cyberpirate ont signifié leur agacement à New Delhi, les autorités indiennes ont pris peur et ont fait précipitamment fermer sa société Apin.
Les liens de Rajat Kare avec l'establishment sécuritaire indien étaient cependant suffisamment forts pour que le cyberpirate n'ait rien à craindre. Aucune procédure judiciaire n'a jamais été ouverte contre lui. Et l'homme a pu rapidement rebondir.
Après avoir passé des mois à le traquer en 2017, nous avons eu la surprise de le voir réapparaître l'année suivante, non pas en Inde, mais au Luxembourg. L'entrepreneur indien y a enregistré un fonds d'investissement baptisé Boundary Holding. Avec l'argent gagné dans sa précédente vie, il multiplie depuis les prises de participation dans des start-up actives dans les technologies de sécurité nationale, comme le spécialiste néo-zélandais de la gestion d'informations criminelles Winyard, ou encore le groupe de reconnaissance faciale singapourien XR Vision. Rajat Kare a également investi dans le secteur en pleine expansion des drones. Il est actionnaire de la start-up allemande DroneFence, qui développe, selon ses dires, des logiciels capables de prendre le contrôle d'un appareil en plein vol, ainsi que du fabricant indien de drones tactiques Asteria Aerospace.
Cette reconversion du barbe noire des cyberflibustiers indiens en paisible incubateur de start-up au Luxembourg a donné lieu à une scène ubuesque. Invité en 2018 dans le Grand-Duché pour parler de notre livre sur les hackers d'État, nous nous sommes retrouvés à retracer la carrière de Rajat Kare à deux pas de l'immeuble où était enregistré son fonds d'investissement.
Début 2020, Rajat Kare a même posé les pieds à Paris. Son fonds Boundary Holding a participé à la levée de fonds de la start-up française de lutte anti-drone Cerber. Une opération qui permet aux cyberpirates de côtoyer des figures du capitalisme hexagonal. Aux côtés du groupe de défense MBDA, l'un des principaux actionnaires de Cerber est en effet l'homme d'affaires Jean-Michel Aulas, qui a fait fortune dans l'édition de logiciels de gestion, mais est plus connu comme président du club de foot, l'Olympique Lyonnais.
Discret en Europe, Rajat Kare a en revanche fait école en Inde. Quelques semaines après la fermeture de sa société Apin, d'autres entrepreneurs ont pris le relais, offrant les mêmes services aux mêmes clients, souvent avec les mêmes informaticiens.
Ce sont d'abord deux cadres du renseignement militaire indien, le colonel Brian Miranda et le brigadier Ram Shilar, qui ont mis sur pied Phronesis Corporate Intelligence. En 2018, notre publication Intelligence Online s'était associée avec les limiers du cabinet informatique Trend Micro pour enquêter sur ce nouvel acteur de la cyberflibuste. Nous avions alors établi que cette société avait repris certaines missions qu'assurait autrefois Appin pour le renseignement indien. Notre partenaire Trend Micro avait retrouvé des traces des logiciels développés par Phronesis dans les attaques menées contre les messageries du haut commandement militaire pakistanais et même dans les réseaux de l'autorité de régulation de l'électricité d'Islamabad. Nous avions aussi découvert que Phronesis, qui a créé un centre de formation baptisé Hacker Lab, s'était également développé dans le golfe arabo-persique, très friand de services d'intrusion informatique, et avait même établi une antenne aux Émirats Arabes Unis, allié diplomatique et partenaire économique de l'Inde.
Après Phronesis, la dernière incarnation de cette industrie indienne du piratage à la demande est la société Beltrox. Notre invité, le cyber-enquêteur John Scott Railton, vient de passer plusieurs années à disséquer son mode opératoire.
Beltrox est basé en Inde. On vient tout juste de les montrer au monde, en effet. C'est un groupe avec des milliers de cibles partout dans le monde. C'est un groupe de hackers cancer, si vous voulez, qui travaille pour une liste assez diverse de différentes entreprises, y compris des entreprises qui cherchent à viser tout ce qui est société civile, donc journalistes, défenseurs de droits humains et autres. Donc, pour ce qui est de l'enquête de Beltrox, ça a commencé comme la grande partie de nos enquêtes avec justement un journaliste qui prend contact et qui nous dit « Écoute, j'ai reçu ce mail tout à fait bizarrissime. Je pense que c'est peut-être un tentative de phishing. Est-ce que vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil ?» Donc, on a jeté une petite coup d'œil. Ce qu'on a découvert, c'était que c'était en effet énorme. Et que derrière, il y avait une groupe qui n'était pas encore décrit publiquement. Au début, on pensait que c'était un état parce que c'était tellement actif. Mais on a découvert enfin que c'était un groupe de hackers mercenaires. Ce qu'on a fait, c'est que, je vais dire ça comme ça. Ce qu'on a découvert tout de suite, c'était que le mail de phishing avait un lien raccourci. Mais ce n'était pas Bitly ou un autre truc bien connu. Les hackers avaient créé leur propre outil pour raccourcir les liens. Donc, on a déraccourci le lien et on a découvert l'adresse mail du journaliste. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant. C'est-à-dire, les liens ici contiennent justement les adresses mail des cibles. Et puis, on s'est rendu compte que, avec une petite astuce, on pouvait découvrir tous les autres liens qui étaient raccourcis avec le même outil. Ce qui nous a permis justement d'avoir une liste éventuellement énormissime de tous les gens ciblés par ce groupe. Donc c'était des milliers et des milliers de liens. Et pendant des années, on a travaillé pour connecter des adresses mail aux gens et puis d'essayer de comprendre quels sont les liens entre ces victimes et ces cibles. Quelle est la logique derrière? Et on a découvert justement pas mal de cibles dans la société civile, mais aussi tout ce qui est commerce, même des cibles en France, dans des éléments plutôt juridiques, industrie, etc.
Sur les mêmes sujets, les enquêtes de Citizen Lab fonctionnent un peu à rebours des nôtres. Quand nous passons tout notre temps à parler à des victimes ou potentiels commanditaires de cyberpirates, pour ensuite tenter de remonter jusqu'aux opérations elles-mêmes, John Scott Railton et son équipe font l'inverse. Ils analysent des fichiers informatiques compromis et des liens piégés et remontent, étape par étape, jusqu'à ceux qui les ont manipulés. Avec des acteurs aussi fuyants que les prestataires en piratage indien, nous arrivons tous au même point, devant un rébus géant avec des milliers de données qu'il faut relier les unes aux autres.
Le départ d'un truc comme ça, c'est technique. Mais très vite, ça devient un travail de contexte et un travail un peu intellectuel. Quel serait le lien entre ces 200 et quelques personnes travaillant dans telle ou telle industrie? C'est quoi le truc derrière? Et donc pour ça, ça demandait justement beaucoup de contact avec les cibles. Et un effort de comprendre ce qui était derrière et ce qui était souvent de l'autre côté d'un procès légal ou un deal dans le business, etc. Et comme ça, on pouvait un petit peu comprendre ce qui était l'enjeu. Parce qu'avec une groupe comme Beltrox, il y avait toujours un enjeu. Et c'était, pour nous, c'était très intéressant parce que ça nous Ça nous a permis en quelque sorte de découvrir ce qui est derrière le fin fond de certaines industries. Les choses un peu cachées, les choses peut-être un peu violentes parfois.
Pour connecter toutes ces données entre elles, tâche fastidieuse s'il en est, le Citizen Lab a bénéficié du concours d'un enquêteur informatique, le cabinet NortonLifeLock, qui dispose de moyens techniques étendus.
Le truc qui est intéressant, c'est que pour un cas comme Beltrox, le travail juste de découvrir tous les liens, le travail technique est tellement énormissime. Il y a tellement de cas, tellement de mail phishing que souvent, il faut un partenariat juste pour partager un petit peu le travail. Et je pense que cela est important et ça représente un petit peu pourquoi il est tellement difficile de découvrir et de caractériser ce genre de groupe. Parce que les groupes sont énormissimes, souvent. Pas en tant que personne, mais leur travail, ils sont prolifiques. Ils sont énormément prolifiques. Et donc, pour avoir un petit peu les contours de leur cible et de leur enjeu, il faut justement ce genre de partenariat.
Détail piquant, le chercheur de NortonLifeLock qui a aidé John Scott Railton dans son enquête fleuve sur Beltrox est l'un de ceux qui a rédigé l'enquête sur Appin 7 ans plus tôt pour le compte de clients norvégiens.
L'activisme tout azimut des entrepreneurs indiens en piraterie constitue souvent le défaut de leur cuirasse. Ce sont des hommes d'affaires et comme tous les hommes d'affaires, ils sont d'abord soucieux d'élargir leur clientèle. Quand nous enquêtions sur Appin et Rajat Kare, des avocats et des détectives nous avaient raconté leur surprise de voir des commerciaux du cyberflibustier indien venir les démarcher et leur proposer de but en blanc d'ouvrir des boîtes mail pour nourrir un dossier de divorce. Certains avaient pris peur, craignant une caméra cachée. D'autres, en revanche, s'étaient montrés nettement plus ouverts.
Phronesis, la société qui a pris la suite d'Appin, utilisait, elle, des hauts gradés de l'armée indienne comme apporteurs d'affaires. Mais à la longue, ces campagnes publicitaires ont fini par attirer l'attention, tout comme les erreurs techniques des cyberpirates indiens. Pour rester rentables, ceux-ci sont en effet contraints de traiter des dossiers à la chaîne, au risque d'être trop expéditifs et de laisser des traces derrière eux.
Elle est pistée, on a cependant l'impression qu'ils s'inquiètent peu d'être exposés, tant ils semblent sûrs d'être couverts par les autorités indiennes.
Le truc avec une groupe comme Beltrox, c'est souvent le cas avec ces groupes de hack for hire pas très sophistiqués, c'est que ils se voient comme intouchables. Ils sont en Inde, leur directeur est déjà visé par les services juridiques en Amérique, mais il n'a jamais eu de problème. Et donc il a continué de faire ce même travail. Et donc pour eux, et je pense que c'est très intéressant, ils font pas un énorme investissement dans leur propre sécurité. Ils continuent de hacker, mais ils ont pas peur des autorités. Et ça, c'est très intéressant, et c'est très très différent des groupes de hackers qui travaillent directement pour les États, qui cherchent souvent justement à cacher leur identité et à empêcher la découverte. Pour une groupe comme Beltrox, la découverte n'est pas un problème. Ils peuvent juste continuer. Et donc là, on touche vraiment sur des questions de priorité entre États.
À l'inverse de Rajat Kare, qui n'a jamais été mis en cause par aucun tribunal au monde, Sumit Gupta, le fondateur de Beltrox, a en revanche eu maille à partir avec la justice américaine.
J'espère que dans les mois qui arrivent, on saura plus. Mais pour le moment, ce qu'on sait de lui, c'est que il a dans son ADN des autres contacts avec des autres groupes de hackers indiens, comme par exemple Appen Security, qui est connu pour avoir été lié à la fois à l'État indien et à la fois justement aux actes mercenaires dans le passé, 2013, 2014, etc. Donc, ce qu'on voit dans le un petit peu dans le plan indien, c'est qu'il y a pas mal de groupes qui parle du même principe, le hacking pour profit, pour des clients commerciaux, des investigateurs privés, etc. Mais peut-être avec certaines liens avec l'État indien, qui sait. Donc, ce qui est intéressant avec lui, c'est que il était justement visé par un processus criminel aux States, en Californie, en 2015. Et depuis lors, il est cherché par la police américaine. Mais justement, ça n'a pas empêché de continuer son travail. Il était visé pour exactement la même chose. Il travaillait avec des investigateurs privés américains pour hacker les boîtes mail des Américains. Donc exactement le même comportement.
La procédure judiciaire qui vise Sumit Gupta est révélatrice des arrière-cours de la Silicon Valley. En 2015, le FBI a accusé Gupta d'avoir, avec un complice, piraté les serveurs d'une société de marketing en ligne, Ocean Avenue. Le cyberpirate indien était mandaté par deux enquêteurs privés qui agissaient eux-mêmes pour une entreprise concurrente, Visalus. Le FBI n'a jamais réussi à appréhender Gupta, resté tranquillement à New Delhi, où il a pu continuer à faire fleurir ses affaires jusqu'à devenir le guichet de hacking le plus recherché au monde.
Pierre Gatineau, Philippe Vasset, Les Nouveaux Corsaires, France Culture. Chercheur au Citizen Lab de Toronto, John Scott Relton s'est spécialisé dans la course informatique, c'est-à-dire la traque des cyberpirates qui ciblent, souvent pour le compte d'État, des partis politiques, des ONG ou simplement des individus.
Je ne sais pas si ça existe en France, mais en Amérique, on a cette glace en trois goûts, fraise, vanille et chocolat. Et je pense que les groupes de hackers sont un petit peu fraise, vanille, chocolat. Donc, ce qui est chocolat, c'est tout ce qui est les groupements créés par les groupes étatiques, donc tout ce qui est NSA, la France, Israël, Chine, etc. Ce qui est vanille, c'est des États qui peuvent pas vraiment, qui n'ont pas cette capacité STEM chez eux, mais qui peuvent payer. Et donc, ils achètent des produits vendus par des entreprises comme NSO Group qui vendent des outils pour hacker des portables très sophistiqués, qui utilisent des zero days, des trucs assez complexes. Et puis, dans le troisième cadre, il y a des groupes beaucoup moins sophistiqués, mais qui arrivent toujours à leur but et qui utilisent souvent, par exemple, le phishing ou des autres déceptions pour pénétrer des ordinateurs. Alors, chez Citizen Lab, on travaille sur tous les trois problématiques. Moi, personnellement, j'ai tendance à travailler sur tout ce qui est vanille et chocolat, donc tout ce qui est des entreprises comme la groupe NSO, donc qui vend des outils de hacking, et tout ce qui est justement des groupes pas très sophistiqués comme Beltrox en Inde et autres, qui sont un petit peu, on pourrait dire, hacking as a service, pour viser des boîtes mail, etc.
Sa dernière enquête, qui l'a mobilisé plusieurs années, porte sur l'entreprise indienne Beltrox, une société de services peu commune puisqu'elle propose à ses clients toute la gamme des opérations de piratage informatique. Boîte mail, intranet d'entreprise, réseau d'État, aucune défense ne résiste aux assauts des flibustiers de Beltrox.
Imagine, ils ont une boîte, ils ont même un panneau. Et il y a un bureau. Et d'après ce qu'on voit, il commence à travailler à 9h du mat, il prend le poste déjeuner, et puis il recommence dans l'après-midi et il termine vers 17h, 18h, etc. Donc c'est carrément, ça marche comme n'importe quelle entreprise. C'est juste que le travail est complètement illégal.
Le patron de Beltrox, Sumit Gupta, a bien été dans le viseur du FBI en 2015. Mais cela ne l'a pas empêché, depuis l'Inde, de prospérer en montant des opérations de piratage d'envergure, ciblant une multitude d'organisations et d'individus à travers le globe. L'un de ces cyber-raids a visé toute une galaxie d'ONG et d'activistes engagés contre le géant pétrolier américain Exxon.
Alors le truc intéressant avec la liste des cibles, c'est qu'il y a des cibles individuelles, des divorces, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des groupes et des séries de groupes qui sont ciblés. Un des cas les plus intéressants, c'était toutes les ONG qui travaillaient sur une campagne qui s'appelait Exxon New. Donc, qui visait à montrer que Exxon avait beaucoup d'informations sur le changement climatique depuis des décennies. Alors, tous les ONG qui participaient dans cette campagne étaient justement visés par Beltrox. Donc, c'était énorme, des dizaines, des centaines de cas. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'effort de Beltrox était, bon, techniquement pas très sophistiqué, mais vis-à-vis tout ce qui est qualité de déception, très sophistiqué. Beltrox était muni d'informations, des relations assez privées entre de diverses personnes, relations entre avocats et clients, etc. Et a créé des mails de phishing assez intéressants. Donc, parfois des mails qui étaient soit internes aux organisations ou soit des mails qui semblaient justement être totalement légitimes. Donc, de collègues qui parlent justement d'un truc. Ce qui nous a montré un petit peu que peut-être Beltrox n'était pas seul et que peut-être quelqu'un les a fournis avec des dossiers assez justement compréhensifs, avec beaucoup d'informations sur les cibles. Telle ou telle personne parle avec telle ou telle personne, etc. Donc, c'était très intéressant. Bien sûr, nous, on n'a pas visé Exxon au doigt. On n'a pas dit, voilà, c'est telle ou telle organisation qui sponsor ceci. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, il y a cette principe. Et ce n'est pas le seul. Ce qu'on a vu aussi en 2017, c'est que des ONG qui travaillaient sur la neutralité d'Internet étaient aussi visés par Beltrox. Et eux aussi, justement, étaient dans un conflit... une série de campagnes de advocacy entre justement des grandes entreprises américaines et sociétés civiles. Donc ce qui était intéressant, c'est que voilà, ce groupe qui semble être un truc commercial se mêle directement dans la politique soit environnementale ou soit d'Internet aux States.
Ce que pointe, en creux, John Scott Railton, c'est que la chaîne qui va du commanditaire d'un piratage à un exécutant comme Beltrox est particulièrement lâche et embrouillée, et qu'il faut, pour la démêler avec certitude, des pouvoirs dont seuls quelques États disposent.
Je pense qu'avec Beltrox, il y a toujours des intermédiaires, ou presque toujours. Donc, pour moi, je pense que la piste intéressante, c'est qu'il y a probablement des investigateurs privés, peut-être aussi des boîtes de relations publiques et souvent aussi des cabinets d'avocats. Donc, tout cela pour créer une sorte d'obscurité de responsabilité. L'information peut passer, l'argent peut passer dans l'autre sens, mais il y a plusieurs couches. Et donc, pour cette raison, justement, CitizenLab a donné avec la demande des cibles des informations au département de justice pour leur permettre de suivre le fil. Parce que nous, avec nos outils, on peut dire oui, on est absolument convaincu que c'est Beltrox. Oui, on voit tous ces trucs contextuels très intéressants, mais on ne peut pas prouver le sponsor, si vous voulez.
La petite communauté des enquêteurs privés internationaux est intrinsèquement liée aux prestataires en piratage comme Beltrox. Notre enquête sur Appin avait suscité un émoi considérable dans ce petit monde que nous connaissons bien. Et celle de CitizenLab a frappé le monde des détectives en plein cœur. Peu de temps après que le centre canadien ait communiqué les résultats de son enquête au département de la justice américain, un détective israélien, Aviram Azari, a été arrêté à New York. Opérant un petit cabinet, Oak, dans la ville d'Haïfa, Aviram Azari est un ancien cadre de l'armée israélienne et membre de la World Association of Detectives. La justice américaine le soupçonne d'avoir joué les intermédiaires entre Beltrox et des clients désireux de commanditer des piratages.
Un truc qui m'a absolument étonné, c'est qu'on a vu des centaines d'investigateurs privés sur les pages LinkedIn de Beltrox avec des endorsements, des professional endorsements, parfois pour private investigation, mais aussi pour exploitation, des trucs comme ça. Et ça m'a vraiment étonné. Et ça m'a aussi montré que un peu comme la guerre anti-drogue, il y a un énorme marché pour ce genre de trucs chez nous. Je pense que ça existe en Europe et ça existe aux States. Et il y a, je pense que ça représente presque la norme dans certains niveaux d'investigation privée d'utiliser ce genre de groupe.
Le fait que la première arrestation dans le dossier Beltrox soit celle d'un enquêteur israélien n'est pas anodin. Depuis de longues années, Tel Aviv et New Delhi ont noué une relation commerciale extrêmement forte dans le domaine cyber. Les sociétés israéliennes comme Verint, Nice Systems, Circles fournissent les outils techniques utilisés par les services indiens de renseignement, eux-mêmes encadrés par l'élite israélienne du cyber. À mesure que ces liens humains se sont tissés entre les opérateurs des deux pays, certains ont commencé à offrir leurs services à des clients privés.
Depuis l'arrestation de l'enquêteur israélien qui travaillait avec Beltrox, le monde de l'investigation privée est sous tension. Ce d'autant plus que le Citizen Lab garde soigneusement par-devers lui le nom des autres détectives qu'il a surpris à sous-traiter avec la société de hacking indienne. Une incertitude insupportable pour une profession dont la raison d'être est de savoir avant les autres, et un suspense frustrant même pour nous. Mais nos efforts pour tenter de décrocher des noms auprès de John Scott Relton ont heurté un mur.
Pour le moment, je garde le silence.
Le cyberpiratage à la demande, comme il se pratique en Inde, a longtemps échappé à la vigilance des spécialistes, car il est peu sophistiqué et reste sous les radars des meilleurs experts, notamment dans les services de renseignement occidentaux.
Les officiers de cyber-renseignement de la NSA américaine, du GCHQ britannique ou de la DGSE française aiment avant tout ferrailler contre leurs homologues russes ou chinois, voire même entre eux. Ces batailles à fleur et mouchetée entre l'élite des codeurs mondiaux flattent les égos et alimentent le carnet de commandes des industriels spécialisés. Mais à l'autre bout du spectre, elles laissent les cyber-flibustiers indiens libres de leurs activités. Or, ce sont ces opérateurs, au final, qui sont le plus actifs sur les réseaux.
Pour moi, il y a une analogie à tout ce qui est épidémiologie. Je pense que les actes très haut niveau, c'est comme le Ebola ou un truc comme ça. C'est très sophistiqué, ça attire beaucoup d'attention. Mais à la fin de la journée, c'est la tuberculose qui a des milliards de victimes. Et je pense que les hack for hire, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont totalement prolifique. Il y a des milliers de cibles et probablement des milliers de victimes dans tous les secteurs, dans tous les pays. Mais je pense que justement, ça attire moins d'attention parce que, au point de vue technique, c'est moins sophistiqué. Mais aussi, si vous êtes ciblé par ce genre de truc, si, je ne sais pas, votre directeur reçoit des mails de phishing, est-ce que votre boîte est capable justement de faire une investigation? Souvent, non. Et si vous demandez à votre fournisseur de services cyber, etc., qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, c'est du phishing, on le lit à un grand truc, etc. Donc, ça n'attire pas vraiment le même niveau de ressources. Et je pense que c'est un petit peu pour cette raison que ces groupes peuvent continuer d'opérer. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense que c'était au mois de mai, Google a publié une petite notice en disant que justement, ils suivaient aussi des groupes de hackers corsaires indiens. Et donc, je pense que ça représente peut-être un petit changement dans le ton vis-à-vis des grandes entreprises comme Google. Et je pense que c'est toujours le cas avec la cybersécurité. Souvent, les attaques ne sont pas sophistiquées, mais ça ne veut pas dire que celui qui est derrière n'a pas la capacité d'utiliser ces informations pour faire du mal aux victimes. Et on le voit partout.
Les salariés de Beltrox, que John Scott Relton estime à une vingtaine, ne font d'ailleurs pas d'efforts démesurés pour se cacher. Ils piratent durant les heures de bureau indiennes, s'arrêtent les jours de fête nationale et truffent leurs lignes de code de référence à des célébrations hindoues, telles Holi, le festival du printemps, ou Binu, une fête traditionnelle dans l'état d'Assam au nord-est de l'Inde. On retrouve même des mots bengalis dans les fichiers piégés qu'ils joignent aux emails destinés aux victimes.
Disposant, sinon de la complicité, au moins du soutien tacite de l'État indien, les pirates de Beltrox n'hésitent pas à s'attaquer à des cibles gouvernementales et à des administrations.
Ce qu'on a vu, c'est que souvent les cibles étaient des ministres de justice. On a vu des gens exécutifs très très hauts, des juges, etc., un peu partout dans le monde. Et souvent, quand on a fait une petite recherche, on a vu qu'il y avait des processus légaux contre l'entreprise, etc. Donc il y avait encore toujours en jeu l'intérêt des grandes entreprises. Ou des gens très riches, des oligarques, etc.
L'une des plus grosses opérations de Beltrox a eu lieu en Europe en 2019. Le groupe a ciblé toute une nébuleuse de consultants et financiers qui ont parié, en bourse, contre le géant allemand des paiements électroniques Wirecard. Rare société technologique d'envergure outre-Rhin, Wirecard pesait alors 17 milliards d'euros.
Mais plusieurs financiers ont jugé que les comptes du groupe n'étaient pas sincères et que Wirecard allait à terme connaître une faillite retentissante. Ils ont donc commencé à vendre l'action du groupe à découvert, c'est-à-dire à parier en bourse sur la chute de Wirecard.
Une décision qui a donné le coup d'envoi à l'une des batailles financières les plus homériques qu'a connue l'Allemagne ces dernières années. D'un côté, des traders convaincus que la principale société de technologie allemande était un Enron en puissance, déterminé à profiter de sa chute inéluctable. De l'autre, une multinationale richissime, fleuron de la technologie allemande, est prêt à tout pour tuer dans l'œuf un assaut de vautours financiers. Très vite, tous les traders qui ont parié contre Wirecard, ainsi que les consultants qui travaillaient pour eux, ont été la cible d'une campagne d'email leur proposant des documents confidentiels sur la société s'ils acceptaient de cliquer sur un lien. La manœuvre, bien sûr, était un piège. Elle ne visait qu'à siphonner les messageries.
Une fois piratés, les emails des traders ont été massivement diffusés sur Internet, ce afin de montrer que Wirecard faisait l'objet d'une conspiration. Même les correspondances entre les financiers et certains journalistes enquêtant sur les soupçons de fraude au sein de la société ont été publiées. Objectif, là encore, discréditer à l'avance tout article défavorable à Wirecard en montrant qu'il avait été inspiré par des traders sans foi ni loi. Une stratégie payante. En avril 2019, le BaFin, l'autorité des marchés financiers allemand, a porté plainte contre deux journalistes du Financial Times, les accusant de manipulation de cours.
Mais la manœuvre a fait long feu. Le 22 juin 2020, Wirecard a annoncé un trou de près de 2 milliards d'euros dans ses comptes, confirmant là tous les soupçons de fraude comptable qui pesaient sur le groupe depuis de longs mois. Le titre a alors perdu 85% de sa valeur, et un jour plus tard, son PDG Marcus Braun a été arrêté par le parquet de Munich, qui a également perquisitionné le siège de la société.
En attendant de voir si les enquêteurs allemands s'intéresseront aux prestataires informatiques de Wirecard, l'enquête du Citizen Lab sur les cyberpirates indiens de Beltrox a d'ores et déjà abouti à un développement judiciaire. Un des nombreux groupes hackés par les pirates indiens a porté plainte aux États-Unis, nourrissant sa plainte des nombreux éléments collectés par l'équipe de John Scott Railton.
Il y a déjà quelqu'un en prison, aux States. Donc, le département de justice a déjà arrêté quelqu'un, justement pour sa participation dans ce groupe. Donc, c'est un investigateur privé israélien qui a fait le choix de visiter les États-Unis pour visiter Disney World. Et bon, voilà, il a été arrêté. Donc, on attend pour voir ce qui va suivre. Dans l'indictment, je sais pas comment dire ça en français, un indictment, dans le processus, dans le procès, dans l'acte d'accusation. Excusez-moi, ça fait des mois depuis que je n'ai pas parlé français, donc ça fait un petit. Donc dans l'acte d'accusation, ce qu'on voit, c'est que il avait même été invité en Inde pour avoir une réunion avec Beltrox. Donc on pense qu'il était peut-être très lié.
Avant Beltrox, les entrepreneurs qui ont bâti l'Eldorado indien du cyberpiratage, et notamment Rajat Kare et sa société Appin, avaient toujours réussi à échapper aux tribunaux. La mise en examen de Beltrox et de son directeur Sumit Gupta sonne donc un peu comme une revanche, car il y a une continuité directe entre Beltrox et Appin.
Alors quand on regarde les profils LinkedIn des gens Beltrox, on voit souvent Appin. Donc Appin Security, où ils ont eu une formation de Appin dans le ethical hacking, imaginez. Mais connexion ici, c'est que Appen date d'une peut-être presque une décennie, et c'est un groupe qui a certains contours comme Beltrox. Donc Appen avait des clients publics, des clients privés. Ce qui était intéressant avec Appen Security, c'est qu'ils avaient justement ce rôle travailler pour l'État indien. Donc ils étaient accusés pour ce double rôle, et on imagine que peut-être ils étaient protégés pour cette raison. Alors, ce qui est intéressant avec Beltrox, c'est qu'on voit chez Beltrox le ADN de Appen absolument partout. Des gens qui sont venus du monde de Appen. Ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on parle des cibles dans les secteurs, dans les entreprises, etc. On parle pas trop d'autres types de questions. Mais faudra voir dans le futur ce qui se passe. On va voir où ça mène. Mais ce que je peux dire direct sur votre antenne, c'est que si Monsieur Sumit Gupta écoute, je lui offre volontiers 2 jours de visite à Disney World s'il veut prendre un avion pour le visiter aux States.
Provocatrice, l'invitation de John Scott Railton n'est pas aussi irréaliste qu'elle en a l'air. Car pour faire vivre sa société de piratage Beltrox, Sumit Gupta a dû jouer les VRP sur les principaux marchés de l'information volée.
Je pense que le truc intéressant pour vos écouteurs aussi, c'est de comprendre que au début, il y avait des boîtes qui travaillaient directement pour les gouvernements. Mais peut-être le business gouvernemental, A, ce n'est pas toujours, il y a des mois où ça marche pas, et B, c'est intéressant, mais c'est toujours limité. Et donc, ces groupes avec ce genre de capacité, ils doivent manger. Donc, ils vont chercher du travail ailleurs, avec les mêmes outils, les mêmes styles. C'est ce qu'Appen a fait. Et je pense qu'on le voit un petit peu partout, dans tout ce qui est le monde des entreprises qui font des active attacks et des trucs comme ça. Et on le voit un petit peu partout dans le monde. Et je pense que c'est une évolution tout à fait normale de l'industrie et très problématique parce que ça encourage justement la prolifération de ce genre de capacités et les abus.
Dans un autre épisode de cette série consacrée au nouveau corsaire, Bernard Barbier, l'ancien directeur technique de la DGSE, avait évoqué exactement la même question, mais d'un point de vue diamétralement opposé. Il défendait l'idée, pour que les cybercorsaires restent créatifs, de ne pas les laisser dépendre entièrement de la commande publique, mais de les inciter à développer une clientèle qui leur permette de rester indépendants.
On a vu tout au long de cette série les États osciller entre deux attitudes parfaitement contradictoires vis-à-vis des corsaires qu'ils mandatent pour batailler, espionner ou pirater pour leur compte. Soit soumettre ses chevaux légers à un contrôle strict, ou au contraire leur lâcher complètement la bride, quitte à se retourner contre eux en cas de problème.
Dans plusieurs États, vous avez toujours des groupes de hackers qui travaillent dans le mercenaire, ça a toujours été le cas. Et les États souvent les voient comme opportunités. On le voit en Russie, on le voit en Chine, Iran, Syrie, etc. Donc je pense que ces groupes-là travaillent... En fait, c'est normal pour pas mal d'États, je pense, parce qu'à la fois, ces groupes représentent une capacité très intéressante, leur permettant d'agir à la fois avec les gens qui portent pas d'uniforme. Donc ça leur permet d'avoir une petite distance. Et à la fois... Peut-être ces hackers ont des passés ou des histoires criminelles qui ne leur permettraient pas d'être des employés des États. Et donc, je pense que c'est une évolution aussi très normale et on le voit un petit peu partout. Je pense que des groupes comme Appen et autres représentent aussi un élément de déni plausible parce que c'est des groupes qui ont des autres cibles. Et donc, on peut toujours dire « Ouais, mais c'est un groupe criminel » ou « On n'est pas sûr ». Par exemple, pour nous, en tant que chercheurs, quand on découvre une série de cibles, il est très difficile de dire « Avec grande certitude, il n'y a pas de cible étatique, il n'y a pas d'État derrière. Et donc, cela représente aussi l'opportunité de ces groupes. Ils présentent des opportunités de flexibilité pour des cyberopérations, à la fois pour tout ce qui est la collection d'intelligence et à la fois pour des actions beaucoup plus actives qui visent justement à créer des problèmes. Pour moi, ces groupes représentent aussi des opportunités d'interception gorille parce que Un État comme les États-Unis ou la Chine ou la Russie, ils ont justement des réseaux énormissimes de surveillance partout dans le monde. Or, il y a certains autres États avec des enjeux géopolitiques un petit peu partout dans le monde, mais ils contrôlent pas le même niveau de technologie partout ailleurs. Et donc, ils ont besoin à une assez grande échelle de savoir ce qui se passe. Et donc, souvent, ils vont faire justement appui aux accords pour avoir ce type de visibilité. Et donc, pour moi, il y a un élément de ça qui est similaire à ce qui se passe dans les autres États. C'est juste que les États vont voir chez les criminels et autres pour leur assister à avoir cette visibilité.
Du point de vue des hackers, la question ne se pose même pas. Leur activité étant, faut-il le rappeler, totalement illégale, ils ont besoin d'un assentiment, au moins tacite, des autorités du pays où ils opèrent. Mais la nature exacte de cet accord varie grandement selon les pays. Les hackers russes qui ciblent les banques et sont parfois sollicités par le Kremlin n'ont pas la même relation avec l'administration de Vladimir Poutine que les hackers indiens n'en ont avec les autorités de New Delhi.
Pour moi, je pense que ça dépend du corsaire, mais je pense que souvent, c'est des décisions faites dans le pragmatisme. C'est-à-dire, l'État peut protéger, l'État peut vous donner l'opportunité de continuer de travailler, vous n'avez pas peur que quelqu'un vienne vous piquer votre argent, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment patriotisme ou est-ce que c'est aussi des décisions tout à fait pragmatiques? Qui sait? Bon, il y a deux choses en jeu. Je pense que tout le monde peut, dans certains pays, peut ouvrir une petite boîte de scamming ou de phishing et de travailler pour un petit moment, peut-être seulement avec la complicité de la police locale. Mais je pense que si vous travaillez au long terme, si vous avez des cibles totalement globales, et si vous êtes visible, je pense que dans ce cas, il faut avoir des relations étatiques. Peut-être pas toujours, mais souvent. Et ça représente aussi peut-être des différences de capacités techniques, parce que les groupes de hack for hire, bon, ils vont pas utiliser des zero days, hein. C'est pas des groupes très sophistiqués, mais ils ont beaucoup de main d'œuvre et ils sont assez habiles dans la déception. Et je pense que souvent leur type de technologie et style, c'est la même chose pour les scammers téléphoniques, etc. Je pense que ça représente aussi des limites de capacités techniques dans certains secteurs, dans certains pays. Et donc, dans la Russie, des activités cybercriminelles sont beaucoup plus rentables, peut-être moins de main-d'œuvre, mais beaucoup plus de sophistication vis-à-vis les énormes travaux criminels pour piquer de l'argent des banques, etc. Or, en Inde, ça représente un autre niveau technique, peut-être moins sophistiqué. Et donc, c'est pour cette raison, peut-être que c'est du hack for hire et non pas la pénétration des systèmes Swift, etc. Il y a des hackers indiens et des capacités indiennes totalement sophistiquées. Mais ça dépend un petit peu de l'industrie et c'est peut-être moins commun.
On peut s'attendre à ce que la procédure judiciaire initiée par les autorités américaines donne un coup de frein brutal au développement des cyberpirates en Inde, voire incite les autorités de New Delhi à revoir leurs relations avec ces hackers.
Alors, ils ont, je pense, fermé le bureau, leur site web n'existe plus, certaines pages LinkedIn ont été nettoyées. Mais bon, on verra.
Beltrox fermée, la demande mondiale, elle, demeure. Qui seront les prochains Beltrox et où seront-ils basés?
On ne peut pas dire vraiment ce qui va se passer en Inde parce que ça représente des enjeux de politique à assez haut niveau. Mais je pense que on voit que les ingrédients pour ce genre d'activité commencent à se développer ailleurs. Est-ce qu'il y aura une vraie concurrence? Qui sait? Mais je pense que ça va être très intéressant. Un truc qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui va se passer avec l'Afrique, surtout l'Afrique anglophone. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de scammers, donc en Nigeria, Ghana, etc. Et eux, ils travaillent presque toujours dans la cybercriminalité de base, donc tout ce qui est le scamming, etc. Mais depuis 2, 3 ans, on voit qu'ils commencent à prendre contact avec des groupes de hackers dans l'Europe de l'Est, etc., pour acheter leurs outils. Et peut-être il y a des transferts de compétences. Donc ce qui m'intéresse aussi, c'est qui d'autre va vraiment participer dans ce genre de hacking for hire à une plus grande échelle. Et moi, je regarde un petit peu l'Afrique.
Thank you. Au niveau mondial, l'offre de cyberpiratage ne cesse d'augmenter. Depuis les grandes entreprises israéliennes cotées en bourse, comme Verint, jusqu'aux ateliers semi-clandestins indiens, comme Beltrox. Premiers utilisateurs de ces services, les États sont-ils suffisamment attentifs au contrôle des technologies offertes ? Dans notre précédente série d'été, Conversations secrètes, nous avions interrogé plusieurs industriels de la surveillance qui jugeaient qu'ils étaient déjà très contraints par les législations en vigueur. Ça n'est pas du tout l'avis de John Scott Relton.
Un truc qui me fait vraiment peur, c'est l'évolution des normes. Et je pense que la croissance des groupes comme NSO et autres encourage des États un peu partout dans le monde à utiliser ces technologies. Bien sûr, sans évolution de droit ou de loi. Le résultat de cela, c'est des abus étatiques un petit peu partout. Alors pour moi, il y a deux trucs qui sont importants. À la fois, de comprendre ce qui se passe à haut niveau avec des groupes comme NSO, et à la fois, vraiment de faire le point sur des groupes pas très sophistiqués, mais qui travaillent à très grande échelle. Et je pense que ces deux problèmes sont comme l'Ebola et le paludisme. C'est comme l'Ebola et le paludisme. Tous les deux sont très très graves et très très sévères. Et pour les deux, je pense qu'ils font... Ça demande de différents types d'appui et de différents types d'investigations, mais ils sont tous les deux très importants.
C'était Cybercorsaire contre Flibustier du Web. Les nouveaux corsaires par Philippe Vasset et Pierre Gatineau. Réalisation Rafik Zénine. Une série que vous pouvez réécouter et même podcaster sur le site de France Culture.